Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonne année à tous.
Et bonne année à tous, tout à fait. Eh bien, nous allons partir en voyage, si vous le voulez bien, avec Antoine de Saint-Exupéry aujourd'hui, mais il va nous amener aux États-Unis.
Absolument.
Parce que
on a déjà fait une partie de sa vie, mais pas sa partie.
Tout à fait.
Et l'exilé, en fait, on peut l'appeler.
L'exilé, si vous voulez, parce qu'il est parti aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale,
oui.
Ce qu'on sait un peu. Mais il y est surtout resté pendant 28 semaines, entre le 1er janvier 1941 et le 2 avril 1943. Oui. Alors, on va essayer de voir ce qu'il a fait à cette époque-là, ce qu'il a écrit.
Ce qu'il a vécu.
Ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, comme on dit aujourd'hui.
Et puis, il a écrit quand même de beaux livres là-bas.
Il a écrit quand même
De grandes œuvres.
Vous nous direz ce qu'il a écrit.
Oui.
Donc, on est lundi aujourd'hui. Eh bien, il y a 79 ans aujourd'hui.
Juste pile.
Le lundi 6 janvier 1941... Donc, Saint-Exupéry assiste à l'office pour l'Épiphanie en la cathédrale Saint-Patrick de New York. Ensuite, il va avec des amis français tirer les rois au restaurant Le Pavillon, qu'il fréquentera désormais souvent. Il y dînera, il y déjeunera bien sûr, et surtout prendra l'habitude d'y travailler une grande partie de la nuit, car
c'est un
oiseau de nuit qui travaille beaucoup. Arrivé par bateau le 31 décembre 1940, il a prévu de rester 3 voire 4 semaines, puis de repartir en France.
Regagner la France.
Voilà, ne sachant pas vraiment que faire vu la date, vu la situation en Europe et chez nous par exemple. Aujourd'hui, nous savons que son séjour dura en fait du 31 décembre 40 au 2 avril 43. Le sort, le destin, la vie, bref, tout cela en a décidé autrement. C'est un séjour important et assez méconnu en France, qui est inséparable de son œuvre et de son engagement patriotique et militaire, car c'est aussi un soldat. Ce sera important quand il sera aux États-Unis aussi. Après Terre des Hommes, voici donc des œuvres qui vont naître sous le ciel, pas sous le ciel de Paris, mais sous le ciel de New York.
Oui.
Un certain pilote de guerre, L'être à un otage, et enfin
Le Petit Prince. Ce sont des livres qu'il a écrits là-bas, aux États-Unis.
Voilà, des livres qui ont été terminés aux États-Unis, à New York. Le tout dans un décor urbain new-yorkais. Bref, nous voilà donc à New York.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse à savoir, pas sur New York, parce que l'histoire de la ville fondée en 1653 un Hollandais appelé Peter Stuyvesant.
Oui, c'est vrai, Peter Stuyvesant, oui.
Connu plus tard
pour les cigarettes.
Voilà, New Amsterdam au début, et puis ensuite les Anglais sont arrivés, et ils ont racheté cette petite ville et ils l'ont baptisée New York.
New York.
Voilà.
Bon, il a une interview de Richard Thomas dans une radio.
Alors oui, il va être intéressant de voir quand il sait qu'il débarque d'abord. En janvier 38.
Voilà.
En janvier 38, il veut battre des records et puis il a déjà beaucoup écrit. Et il est intéressé, intrigué par l'Amérique et il va donc à New York. Et comme il est déjà connu et la radio locale...
Radio City New York,
c'est Radio Bay New York,
oui,
on
c'est
va
ça.
Dire déjà.
Voilà.
Hein, et bien donc, lui propose une interview le 3 août 39, et il va aux studios qui sont installés au Rockefeller Center, ce grand gratte-ciel, et c'est pour lui l'occasion d'avouer sa fascination pour la grande ville américaine.
C'est ça, oui.
Alors, il est interrogé par Richard Thomas,
oui, qui
mais
lui
moi,
demande...
je suis interrogé par vous.
Oui, donc, c'est ça.
J'y gagne au change.
Pas vraiment.
Alors, que dit Richard Thomas?
Il lui demande, quelles sont vos impressions sur New York?
Alors, quelles sont vos impressions sur New York? Alors, Saint-Ex répond, je cite, parce qu'il ne faut pas en perdre une miette.
Mais non, tout.
New York m'a infiniment plu. Voilà. Quand j'ai débarqué pour la première fois en janvier 1938, la date est importante, je me suis attendu à trouver quelque chose de grandiose. Une magnifique réalisation de l'énergie humaine. Mais je ne m'attendais pas du tout à trouver là une sorte de perfection esthétique. Et en particulier, l'immeuble dans lequel je suis en train de parler en ce moment est une chose qui m'a fait de l'impression sur cette planète où j'ai voyagé à peu près partout. J'avoue que j'ai eu un choc devant la perfection des lignes, la mesure de cette énorme construction. Ce n'est pas du tout énorme, choquant, écrasant, mais léger. Et malgré tout, New York est pour moi la ville de fer et de verre, ce qui n'est pas faux. Voilà la première question. Et c'est vrai que quand on est dans New York, c'est pas tellement choquant ni écrasant. Toutes ces lignes sont harmonieuses.
Ça paraît léger.
Ça paraît léger quand même. Voilà.
Alors la deuxième question qu'il lui pose, c'est voulez-vous voyager aux États-Unis ?
Alors, passer les États-Unis, c'est un continent, c'est immense,
c'est immense.
Il y a la côte Est et la côte Ouest.
Absolument.
Alors, on lui demande s'il veut voyager. Il répond, Washington, je connais déjà.
Il est déjà allé dans
la capitale, qui est Washington et pas New York.
Oui.
Je compte aller sur la côte Ouest, donc sur la côte du Pacifique. Voilà.
Il est bref. Il est très bref. Alors, la troisième question, voulez-vous visiter le pavillon français à New York ?
Alors, à New York, il y a un pavillon français qu'on appelait autrefois la Maison de France, la Maison de la France.
Qui représente la France,
qui
là-bas.
Qui représentait la France, puisqu'à New York, il n'y a pas d'ambassade, elle est à Washington.
Elle est à Washington,
Par contre, il y avait un consulat, il y a un lycée français. Et puis, il y a cette World Fair de New York. C'est une vitrine économique, patrimoine de la France.
On parle un peu de la France, là-bas.
Voilà, une ambassade bis, si on peut dire. Mais non pas diplomatique. Et alors, on lui demande s'il y est allé. Et il répond, je ne l'ai pas visité parce que j'y déjeunais et j'étais pris par le temps. C'était un homme pressé. Déjà.
Très pressé, oui.
Mais il y a une chose qui m'a touché, c'est l'admirable situation que l'Amérique a réservée à la France. Car ce pavillon est certainement le mieux situé. Et je trouve que c'est très émouvant, c'est un signe d'amitié. Mot important.
Il était sensible.
Il était sensible et l'amitié chez Saint-Ex, c'est primordial.
Quelque chose d'important.
Primordial, on va dire. Dernière question peut-être.
Je n'en ai plus.
Je n'en ai plus. Alors la dernière question, le journaliste était très content de le recevoir et lui dit « Je me permets de vous serrer la main, c'est l'expression anglaise, et de vous souhaiter bon voyage aux States. »
Voilà.
Alors, et Saint-Ex de répondre, bien sûr, je vous remercie de ses vœux, on est dans les vœux.
Oui, ça tombe bien.
C'est ça. Et je suis sûr que je prendrai le plus grand plaisir à voir l'Amérique un peu plus profondément. Voilà, la fin de l'interview. Donc, il avait été très fier que Radio City New York, eh bien, lui réserve l'invite pour une interview.
C'est bien.
Voilà.
Pour ce Français qui arrivait pour en fait, il y allait pour visiter au départ.
Il y allait pour visiter,
pour s'enrichir aussi, voyager. Prendre des contacts. Parce que c'était sa force.
Voilà, les contacts avec le milieu littéraire, le milieu militaire
parce que c'était un militaire,
un officier de l'armée de l'air. Et puis, nous sommes en 38-39.
Oui.
En Europe, les bottes commencent à s'agiter.
C'est ça.
On fait un peu d'histoire, mais il faut sans cesse interroger l'histoire pour comprendre les choses.
Bien sûr.
Ah oui. Aujourd'hui encore, raison encore plus, je dirais même. Alors, le voilà, donc, en 38-39, et pour lui, il repart avec Terre des Hommes. Terre des Hommes, c'est un essai autobiographique.
C'est bien ça, oui.
C'est un essai que nous recommandons à nos auditeurs, bien sûr. Terre des Hommes, c'est quelque chose qui remporte un vif succès, aussi bien en France qu'aux États-Unis. C'est un recueil autobiographique qui est paru en France en février 1939.
D'accord, et là-bas, il est paru en 31
Et là-bas, il a paru un peu plus tard, en 39,
au mois
de juin. Et il a reçu en France, le 25 mai 1939, il reçoit le grand prix du roman de l'Académie française.
Ah oui, c'est vraiment un très très beau prix.
C'est un très beau prix, un très beau livre. Et aux États-Unis, il aura aussi le National Book Award.
Oui.
Il aura aussi un prix national, on va dire. Et il apparaît sur le titre anglais « Wind, Sand and Stars », du vent, du sable et des étoiles.
Des étoiles, oui, voilà. C'est ça, oui.
Nous, c'est Terre des Hommes. Il avait pensé à un autre titre aussi, mais il a préféré Terre des Hommes. Il y a le mot terre, là, sur lequel nous vivons, et il y a les hommes aussi, l'importance. Ça ne veut pas dire qu'il dénigre les femmes. Non,
non. Non. Mais c'est sa vie de pilote un peu.
C'est sa vie de pilote.
Voilà. Mmh.
Alors, l'ouvrage figure en juillet 1939 au Book of the Month, c'est-à-dire le livre du mois. En Amérique, c'est très important. Mmh. Et l'auteur devient une personnalité outre-Atlantique. C'est pour ça qu'il voudra revenir, avant la Seconde Guerre, aux États-Unis, où c'est un écrivain français déjà très coté. Puis il a une forte personnalité.
Oui.
C'est un écrivain et c'est un aviateur. Différence avec Paris. À Paris, on ne saura jamais si c'est un aviateur ou
si c'est un écrivain. On ne saura pas bien le loger. C'est vrai,
voilà,
c'est vrai.
À Paris. Alors qu'à New York, aux États-Unis, il sera tout de suite les deux. L'écrivain...
Voilà. Et le pilote.
Mmh. Alors qu'à Paris, il en souffrait de se sentir, même dans son propre pays, un peu difficile à caser.
Oui.
Alors qu'aux États-Unis, peut-être plus pratique, on voit les choses différemment depuis ce grand continent. C'est pas la même. Et c'est dédié à Henri Guillaumet, son camarade.
Chez le TCOR,
voilà,
enfin.
Je te dédie ce livre.
Voilà.
Oui, celui qui a disparu.
Oui.
Et ensuite, mais celui qui auparavant avait réussi à s'extirper d'une situation ô combien
périlleuse.
Difficile et périlleuse en Amérique du Sud.
Ouais.
Je te le jure, aucune bête
n'aurait
ne l'aurait fait.
Faire, oui,
voilà,
c'est ça.
Nous savons.
Ce que j'ai fait.
Et alors, c'est un recueil d'articles publiés sur les conseils d'André Gide.
Ah.
André Gide. Ce sont des articles. Il y en a 7, il y en avait en réalité 8. Il y a La Ligne, parce qu'on s'adresse aux pilotes.
Donc différents journaux, en fait.
Voilà. Mmh. Les Camarades, L'Avion, La Planète, Oasis, Dans le Désert, Au Centre du Désert, et il finit par Les Hommes.
D'accord.
Et il y a beaucoup de souvenirs, et il se souvient donc, dans le désert, lors d'une panne, il se souvient du château de Saint-Maurice-de-Raymond, qui est dans l'Ain, tout près de chez nous, finalement. Et
tous les souvenirs... Oui, il a passé une grande partie de son enfance.
Voilà, l'enfance qui revient... Et c'est très intéressant de lire ce Terre des Hommes. Vous pouvez prendre des articles dans l'ordre que vous voulez.
Il n'y a pas de cohérence entre les.
C'est
voilà.
Ça. Oui. C'est ça. Donc c'est important. Et donc, c'est donc 38-39, eh bien le voilà new-yorkais. Mais en 39, il va se produire quelque chose en Europe, comme vous savez, en France. Et le voilà qui est. Bon, il rentre en France. Et puis le voilà sous les drapeaux.
Oui.
Le voilà sous les drapeaux, le voilà, il retrouve l'armée de l'air, et il va falloir, à partir du 10 mai 1940, il va falloir essayer de repousser l'invasion de nos voisins.
Voilà, oui,
de
c'est
nos
ça.
Voisins, qui eux ont une flotte aérienne époustouflante. Nous en avons une, mais elle est un peu plus réduite.
C'est vrai.
Le courage de nos pilotes
Oui, les pilotes ne manquent pas de courage, ça c'est vrai.
Nos pilotes, et oui, hein. Et dans le groupe aérien, le 233 de Saint-Exupéry, sur 19 équipages, à la fin de la guerre, il n'en restera plus que 5. Il n'y en aura plus que 5, les autres étant été descendus.
Disparus
par la Luftwaffe. Et donc, cet événement, ça va être la source, le vivier d'une œuvre remarquable, qui est pilote de guerre.
Pilote de guerre, oui.
Mais pour l'instant, il est le 23 mai 1940, il décolle de Meaux pour aller voir ce qui se passe. C'est un ordre, c'est une mission désespérée qui ne sert peut-être à rien, au point où on en est pour aller essayer de repérer les divisions blindées allemandes qui descendent sur Arras et sur Paris.
C'est ça, oui.
Voilà, voir ce qu'on peut faire. Et c'est une mission suicide.
Très périlleuse.
Suicide, et donc il est victime de la DCA
allemande
de la FLAC. Quand il arrive quand même à s'en sortir miraculeusement,
c'est vrai.
Bon, Et alors, ça nous vaut des pages merveilleuses de Pilote de guerre, où il utilise les souvenirs d'enfance qui lui servent de bouclier contre l'actualité immédiate, contre la guerre.
Oui, la débâcle de 40,
il
tout voit, ça,
il
voilà.
Il assiste à la défaite.
Oui, oui.
Il assiste à la défaite. Et nous aurons donc plus tard des pages superbes. Et la presse américaine ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a déclaré que Pilote de guerre et les discours de Churchill, c'était, jusqu'à nouvel ordre, les seules parades au livre de Hitler, Mein Kampf.
Ouais, dis donc.
C'est-à-dire que Pilote de guerre a été quelque chose de
très important. Ouais, ouais.
Écrit plus tard aux États-Unis, mais vécu, et il s'en sort par miracle. L'avion rentre perforé, comme une vraie passoire, alors que 19 équipages, eux, ne sont pas rentrés.
Oui.
Il a effectué 7 missions au-dessus de la France, et ce n'était pas vraiment aisé, car les conditions étaient très difficiles. Il va être ensuite, et voici l'armistice du 22 juin 1940, que dans une certaine mesure, il approuvait pour arrêter le massacre.
C'est vrai qu'à un moment, on disait qu'il était pétiniste, c'est pas ça qu'il voulait.
Voilà.
C'est qu'il voulait qu'on arrête.
Il voulait qu'on arrête le massacre. On avait déjà perdu au moins 100 000 hommes.
C'est ça, voilà.
Entre le 10 mai 40 et le 25 juin 40, on a perdu 100 000 hommes. Ça va très vite. Même on pense maintenant, avec les archives nouvelles qu'on a eues, c'est un peu plus.
On a
1 million et plus de prisonniers. Bref, l'armée française est anéantie.
C'est la débâcle.
C'est la débâcle. Et lui, il veut arrêter le massacre.
Et
il pense qu'un jour, peut-être, ce ne sera pas que des ruines, mais des ruines qui touchent le patrimoine français. Mmh. Voilà, déjà, pour tuer l'âme française. Voilà. Donc, il est partisan d'arrêter les frais, en somme. Ce qui sera mal compris par beaucoup d'autres.
Bien sûr.
Compris par certains, mais pas mal compris par beaucoup
d'autres. Par une partie de la résistance, au départ.
Oui.
Voilà.
C'est un moment difficile où on se sent très mal. On n'est pas à l'aise. On ne sait pas sur quel pied danser, lui non plus. On ne sait pas où nous allons. Et nous sommes occupés.
C'est ça, voilà.
Nous sommes occupés. Les Allemands défilent le 14 juin sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, oui, Jodassin, mais en attendant, il défile le 14 juin. Et là, les Parisiens rigolent plus.
Non.
Nous, on est encore en zone libre, à Bourg.
Oui.
Jusqu'au 11 novembre 1942. Et après, fini.
Toute la France est envahie.
Il fallait penser plus tôt, mais... Bon, on était cool, on va dire. On était cool. Et on a coulé.
Ah, complètement.
Voilà, malheureusement. Donc, il est démobilisé, fin juillet 40, il est démobilisé, et il va un peu voyager, il va à Hague, où se trouve sa sœur qui est mariée là-bas. Où se trouve sa sœur qui est mariée là-bas. Il continue d'écrire Citadelle.
Oui, c'est vrai.
Voilà, son testament qu'il n'a pas pu relire puisqu'il n'est pas revenu.
Non.
Il continue d'écrire Citadelle. Et puis, il voyage, il prend l'avion, il va à Vichy chercher des papiers nécessaires pour partir.
C'est ça.
Et le visa lui sera facilité par la fondation Rockefeller. Rockefeller, qu'il avait reçu comme journaliste.
Voilà, oui.
Et qui voudrait bien le récupérer, parce que c'est un talent pour eux.
C'est
donc
ça.
Le visa arrive.
Donc il l'a quand même facilement,
facilement. Il va en octobre, il va à Saint-Amour, dans l'Ain, à 30 km d'ici, tout près de chez nous. Il va voir son ami Léon Werth.
Voilà, c'est ça.
Léon Werth, c'est un grand ami, c'est un auteur d'origine israélite et qui a dû quitter Paris, étant juif. Les Allemands arrivant, il a fallu qu'il parte. Seulement, pour arriver de Paris à Saint-Amour avec la drôle de guerre et l'exode, il y met 33 jours.
C'est ça.
Et c'est ces 33 jours qu'il voudrait publier.
Il est en otage, c'est ça.
Il voudrait publier, et quand Antoine va à Saint-Amour, au quartier Chantemerle, où il y a un très beau chalet. Il y a toujours le chalet de la famille.
Il est toujours là, d'accord.
Toujours là, un chalet tout en bois, dans la verdure. C'est magnifique, c'est très très calme. Eh bien, Werth lui donne le manuscrit de 33 jours afin que Saint-Texte,
soit publié,
écrivent
voilà.
d'abord une préface.
C'est ça, voilà.
Une préface. Mais la préface, elle, bon, le monde varie, la préface ne verra pas le jour, elle le verra, mais Saint-Texte va modifier cette préface et va en faire un texte non seulement à destination de Léon Werth, mais de toute la France.
C'est ça.
Ça sera la lettre, d'abord à un ami,
et à la lettre,
ensuite la lettre à Léon Werth, et finalement il trouve un nouveau titre,
la lettre à un otage.
Et finalement c'est toute la France qui est prise à un otage.
Bien sûr.
Et cela nous donne la lettre à un otage, publiée en juin 1943. C'est un ouvrage qui est inspiré par la Seconde Guerre mondiale. Et là, il s'adresse à la France, il s'adresse aux Français qui sont pris en otage. Comme Léon Werth.
C'est ça.
Et il y a beaucoup d'émotions dans ce texte. Et il y a un texte qui nous concerne un peu, puisqu'il se rappelle au bord de la Saône.
Oui, oui.
Un jour, Léon Werth et Antoine, ils vont se balader, comme on disait.
Mmh.
Ils se retrouvent à Bourg, devant le Français, ou devant la Jeanne, chez la Jeanne.
Chez la Jeanne.
Voilà, ils entraient et buvaient un coup, bien sûr. Et après, ils vont tous les deux à Fleurville, sur la Saône. Mmh. Voilà, au sud de Tournu. Et puis, c'est un jour d'été, et c'est un jour magnifique, car il est avec son ami Léon Werth.
Certes, oui.
Et puis, ils arrivent, et il y a le bar de la marine, ils s'assoient, ils commandent un pastis ou un pernaud, comme on disait à l'époque.
Oui.
Et puis, ils voient une péniche sur la Saône, il y a deux mariniers, et Saint-Texte leur dit de venir, il ne les connaît
pas, mais
ils les interpellent. Mm-hmm. Alors ils arrivent, il y en a un qui est allemand.
Viens boire un coup avec nous.
Voilà, viens boire un coup avec nous. Un qui est allemand et l'autre qui est hollandais. Et puis il y a la servante, la serveuse, on dirait,
oui,
mais Saint-Texte,
oui,
la servante.
La servante, oui.
Et alors ils discutent et Saint-Texte, qui est un peu idéaliste aussi, s'aperçoit que tout le monde a l'air heureux, a l'air bien, tout le monde sourit.
Mm-hmm.
Il attache beaucoup de prix au sourire de la servante. À ton sourire, à mon sourire, pour lui c'est un moment inoubliable.
Un moment de partage, qu'il apprécie.
Entre la servante qui ne connaît pas,
et ses deux...
l'allemand, oui. Et puis l'hollandais qui ne connaît pas non plus, alors que Léon Werth est plutôt
silencieux. Dans la retenue.
Il est dans la retenue, il se demande si ces deux mariniers ne sont vraiment pas des espions. Parce qu'après on perdra leur trace.
Oui, donc,
l'allemand est avec une dame aussi.
C'est ça.
C'est un couple qui s'est volatilisé. Bon. Mais enfin, on a de belles pages dans Lettre à un otage, et qui verra le jour aux États-Unis.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais l'histoire débute en France, au bord de la Saône, près de chez nous, finalement. Et il disait à Léon Werth, « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » Tu es différent, mais en se connaissant,
chacun quelque chose.
Voilà, c'est bien. Et plus tard, il écrira ces phrases superbes. Il y pensera aux États-Unis. Lui, il est à l'abri, si on peut dire. Alors que Werth est en France, c'est pas facile.
Là, il prend des risques.
Il prend des risques. Et plus tard, son fils passera le baccalauréat au lycée Lalande. Claude Werth. Voilà. Celui qui, cette nuit, hante ma mémoire, est âgé de 50 ans. Il est malade. Et il est juif. Comment survivrait-il à la terreur allemande ? Pour imaginer qu'il respire encore, j'ai besoin de le croire, ignoré de l'envahisseur, abrité en secret par le beau rempart de silence des paysans de son village. Alors seulement, je crois qu'il vit encore.
Et il n'avait pas de nouvelles.
Il se demandait, non.
S'il était encore vivant.
Et Léon Werth décède en 1955.
Donc il va passer toute la guerre.
Et puis, Saint-Texte ne pourra pas, lui, passer toute la guerre, car nous savons. Donc, voilà. Donc, l'être un otage, c'est inspiré de la guerre comme pilote de guerre.
C'est ça. Voilà.
Malheureusement, je ne dirais pas qu'il faut qu'il y ait la guerre, non, mais la guerre parfois suscite.
Et voilà.
Suscite d'autres mouvements, d'autres inspirations, d'autres chefs-d'œuvre. Comme le silence de la mer de Vercors.
Voilà.
C'est pareil. Qu'est-ce que vous avez à nous lire ?
Je ne sais pas, mais on va continuer peut-être.
On va faire un peu de musique
Un petit,
peu de musique. Vous savez que Saint-Exupéry était mélomane, il jouait du violon. Et il aimait travailler.
C'était un artiste quand même.
Un artiste. Ah,
complet.
Aux mille facettes, complet.
Mais oui, parce qu'il était peintre aussi, aquarelliste.
Oui, dessinateur,
enfin.
Aquarelle.
Et caricature.
Caricature.
Il faisait. Et musicien, il jouait du violon.
Musicien, mélomane. Et donc, il avait des micro-sillons, comme on disait.
À l'époque.
À l'époque. Ah. 78 tours.
78 tours.
Et oui. Et alors, il travaillait en musique. C'était tantôt Bach, tantôt c'était Handel, tantôt c'était Mozart. Alors là, nous allons écouter un choral, Jésus, que ma joie demeure.
Voilà,
il aimait bien tout ceci. Eh bien, nous nous retrouvons avec Gisèle et puis Thomas à la technique, que nous remercions. Nous nous retrouvons donc en 1940, à octobre 1940. Nous avons laissé Antoine à Saint-Amour avec Léon Werth, W-E-R-T-H. Il était né à Remiremont. Et Saint-Exupéry a été cité à l'ordre de l'armée, décoré de la Croix de guerre, parce qu'il a combattu dans des conditions périlleuses, le capitaine Saint-Exupéry. Voilà. Et après la dernière mission, son groupe va être évacué sur Bordeaux. Et puis après, on va partir à Alger, parce qu'en France, la situation est terminée. Oui. Nous avons parlé de l'armistice, 22 juin 40, des mobilisations, fin juillet. Saint-Ex va à Agay, retrouver sa sœur, il continue à rédiger Citadelle. Et puis ensuite, il souhaite quand même se rendre aux États-Unis pour essayer de convaincre l'Amérique à entrer en guerre.
En guerre, oui.
Mais ça, c'est peut-être pas facile au début. Il va partir à Lisbonne. Il va partir à Lisbonne, mais d'abord, il part à Alger. Il va à Alger, il va voyager, Tanger, Fès. Et puis, il va gagner Lisbonne au mois de novembre, à peu près. Il va donc au Portugal, car c'est du Portugal qu'il y a des liaisons régulières par bateau avec New York. Voilà. Mais il faudra attendre un peu, parce que le calendrier dépend de beaucoup de choses. L'Europe est en guerre.
Toute l'Europe.
Voilà, l'Europe. Alors, il part quand même le 12 décembre pour New York sur un navire qui s'appelle le Siboney, qui appartient à l'American Export Lines, et voyage avec le réalisateur français Jean Renoir. Et ça va être pendant une douzaine de jours, puisqu'il arrive le 31 décembre, le soir, pour le réveillon de Nouvel An, si on peut dire. Mais je ne sais pas s'il pense à réveiller des hauts, quoique, pourquoi pas. Il est accueilli par Pierre Lazareff, qui est journaliste français. Il y a beaucoup de Français là-bas. Et donc, la traversée se passe admirablement bien, car il sympathise tous les deux tout de suite, Jean Renoir et Saint-Ex, chacun s'apporte beaucoup, comme me disait tout à l'heure.
Oui,
voilà.
Oui. Il aimait bien ça,
discuter, faire des projets, l'amitié, le contact, et ça lui plaisait tout ça. Il était très sociable, mais il avait besoin de solitude. Il avait besoin de temps en temps qu'on lui fiche la paix, un peu comme tout le monde, on va dire. Et il se dit, je vais partir là et je vais rester à New York 3-4 semaines. Quoi. En réalité, ça sera 28 mois.
28 mois,
voilà, il a décidé. Alors, il nous dit, je suis arrivé à New York à bord d'un bateau américain, le Siboney, un infâme rafio qui avait appareillé de Lisbonne. C'était le 31 décembre 1940, après 11 jours de traversée par une mer houleuse. Le navire était si petit qu'il ressemblait à un canot de sauvetage et si bondé qu'il n'y avait plus de place pour les aventures discrètes, entre guillemets bien sûr. Donc il arrive et le voilà au mois de janvier 41, le voilà à New York, il descend à un grand hôtel au Ritz-Carlton où il avait l'habitude de descendre, dans des hôtels avec plusieurs étoiles,
oui.
À Manhattan, oui. Et là, autour de la mi-janvier, il va avoir un prix, on va lui remettre un prix. C'est le prix suite à son succès de Terre des Hommes.
Terre des Hommes, oui.
Devant 1500 personnes. C'est l'Amérique, on n'y voit pas de main morte, 1500 personnes. Et il parle très bien, mais en français, parce qu'il refuse d'apprendre l'anglais.
Ah oui, il était assez rebelle de ce côté-là. Il ne voulait pas apprendre
l'anglais. Il disait, je m'envoie déjà pour écrire, ce qui est vrai. Il écrivait avec difficulté.
Ah oui, difficulté.
Et donc, il ne voulait pas apprendre, parce qu'il disait, je n'y arriverai pas à mon âge, et puis j'ai pas l'habitude. Il se concentrait beaucoup à la langue française, donc il lui fallait toujours un interprète.
Aye.
Voilà, il connaissait la langue allemande qu'il avait dû apprendre dès la sixième chez les pères jésuites, et avec le latin. Mais l'anglais était très rétif. Et après, il apprendra des cours d'anglais quand il sera à Long Island. Il prendra des cours d'anglais avec Mademoiselle Bréau, mais ça sera des cours un peu particuliers, revus par Saint-Ex, quoi. Mm. On parlait beaucoup d'autres choses, on faisait 5 minutes d'anglais.
C'était ça.
Il
fallait que ce soit ludique pour lui.
Ludique, oui. Il était difficile à gérer.
C'est ça.
Difficile à gérer. Donc le voilà aux États-Unis. Et là, il va retrouver des gens qui sont importants, ce sont ses éditeurs.
Oui.
Les éditeurs, il en connaît déjà, puisqu'ils ont déjà édité Terre des Hommes. Il les retrouve, il ne pensait pas, en 1939, quand il est reparti, il les retrouvait si vite. Mais la guerre est arrivée. Et la guerre chamboule tout.
C'est ça.
Tout. L'intérieur, tout. Et alors, il est content de retrouver Eugène Reynal,
Curtis Hitchcock,
qui sont très francophiles et qui vont l'aider. Mais ce sont des éditeurs, c'est précieux.
Très important.
Très important.
Pour quelqu'un qui veut écrire.
Qui veut écrire et publier. Mmh. Il retrouve son ami traducteur Lewis Galantière.
Galantière.
Oui.
C'est un ancien français,
ah ouais. Qui a fait ses études à la Sorbonne. Donc,
oui, il est bien entouré quand même.
Il lui faut un agent littéraire. Il rencontre Maximilian Becker.
Becker,
un Américain de souche allemande qui est né au Caire. Qui a beaucoup voyagé, donc ça lui plaît tout ça.
Oui, et puis il sait très bien qu'il va pouvoir éditer
s'il écrit, c'est ça. Il est entouré, son livre a un franc succès, et on lui commande un second bouquin tout de suite.
Oui.
Parce que les Américains veulent encore du Saint-Ex. Dans le vivier, il a déjà Le Petit Prince.
Mais oui, il y a un moment qu'il y pense, au Petit Prince.
Il y pense, Le Petit
mais
Prince.
Mais au départ, il voulait faire un conte, non ?
Il voulait faire un conte, parce qu'il avait eu un accident... en 1938, aux États-Unis, il avait été hospitalisé. Il avait rencontré Annabella,
une actrice
française, Suzanne Charpentier, qui faisait carrière à Hollywood, aux États-Unis. Mmh. Et donc, entre Français, on s'aidait. Et elle venait le voir. Il était hospitalisé pendant de longs mois, vu ses blessures. Elle lui lisait les contes d'Andersen.
Et il les trouvait très sympathiques, les contes.
Il aimait les contes de Perrault, les contes de Grimm.
Ça. Donc il disait, je vais écrire des contes.
Ouvrir un conte pour enfants, en réalité pour adultes. Mais c'était ça à l'origine. Donc il a les éditeurs, il a l'agent littéraire Becker qui s'occupe et qui est très actif, le traducteur qui a beaucoup de courage, puisque travailler avec Saint-Ex, c'est sportif, on va dire. Les horaires, les rendez-vous, c'est toujours très...
Et puis de le suivre, parce que son cerveau, il marchait plus vite. Alors,
ça tourne là-dedans. Oui, il faut beaucoup de courage.
Oui, mais je pense qu'il avait l'habitude. Hein.
On ne s'ennuyait pas, quoi. Mm-hmm. On ne s'ennuyait pas. Et donc, le voilà donc aux États-Unis. Il est loin de la maison. Il est loin. Il y a quelqu'un qui lui manque toujours, c'est sa mère.
Ben, bien évidemment, il avait des rapports privilégiés avec sa maman.
Avec sa maman. Comme on dit, et puis...
Parce qu'elle l'avait élevé pratiquement seul, parce que quand son père a disparu, il avait 4 ans.
Il avait 4 ans, son père est mort. Saint-Ex est né en 1900, il faut rappeler, 1900 est disparu en 1944.
C'est ça. Il était jeune quand même.
Donc son père meurt en 1904,
il avait 4 ans, oui.
Et puis le petit frère...
Il avait 16 ans.
Il meurt à l'âge de 15 ans, à peu près. Ouais. À Saint-Maurice-de-Raymond, là où il est enterré. Donc, il s'est retrouvé entouré de femmes, c'est-à-dire la mère, les trois sœurs, Marie-Madeleine, Simone et Gabrielle, la comtesse Tricot, le personnel féminin, il y avait bien le cocher et le jardinier, mais enfin, c'était l'agent féminine qui était en majorité. Donc, il lui manque tout ce monde féminin, tout ça. Et celle qui est au-dessus, la clé de voûte, on va dire, la pierre angulaire, c'est la mère.
Sa mère, oui.
Et à New York, la mère n'est pas là, forcément. Elle est là-bas, loin, elle est à Cabri. Et Cabri, c'est fini, elle ne reviendra pas, voilà. Donc, il a souvent ce qu'on appelle le cafard.
Il a le blues.
Il a le blues.
Comme on dirait aux États-Unis, il a le blues.
Il a le blues. Alors, quand il a le blues, il va se promener à Manhattan, au sud, puis il va prendre le bateau, et il va faire le tour de la statue de la liberté.
C'est ça, voilà.
Et cette statue de la liberté le fascine parce que le visage, c'est l'auteur de cette réalisation, Bartholdi de Colmar. C'est le portrait de sa mère.
La tête de sa maman.
Ouais. Donc, il fait le transfert, si on veut dire. Ouais. Et quand on y va, quand on va au pied de la tour, on fait tout le tour et c'est très émouvant.
On peut aller sur l'île, quoi.
On a une vue de New York
qui est remarquable.
En face, c'est pas très loin. Et à côté, il y a l'île qui recevait tous les immigrants. Voilà. Et donc, il est à New York et donc Annabella lui lit les contes d'Andersen et ça le titille. Et maintenant, on sait que dès 1937, il avait l'intention d'écrire quelque chose déjà. Il en avait parlé à un éditeur tourangeau Et bon, il y avait des papiers, il avait commencé à travailler, et puis c'était parti dans les archives, la guerre est arrivée, et l'imprimerie, les archives de cette maison sont parties en fumée, ont disparu en 40, et après, et puis donc c'est fini. Mais l'idée était toujours vivace dans son esprit, Et donc, il va rencontrer, on parlait de l'agent féminine. Il va retrouver à New York, et c'est un des moments importants de ce séjour, outre la création littéraire, il va retrouver la chaleur maternelle ou plus féminine. Il va donc retrouver bien Consuelo,
sa femme, oui.
Elle va venir.
Oui.
Bon, il y aura des hauts et des bas, mais elle est par là.
Mais elle est très, très, très légère, Consuelo.
Très légère.
Il avait besoin de quelqu'un de plus construit.
Alors, de plus construit, il y a Nelly.
Nelly voilà.
De Voguet.
De Voguet.
Dont il fera son exécutrice testamentaire.
Ouais.
Nelly qui le rejoint, qui est riche, on va dire, qui a beaucoup d'entre-gens, beaucoup de relations à Paris et à Washington. C'est pas rien. C'est pas rien.
Ça va beaucoup l'aider, ça.
Et dans beaucoup de domaines. Ah, oui. Donc, il y a Nelly qui arrive. Il y a Nelly qui arrive, qui l'aide, lui fait rencontrer des gens influents et tout. Il aime ça aussi. Et il va rencontrer donc Annabella, il y a aussi Nathalie Pallais.
Oui.
Il y a d'autres.
Sylvia Hamilton, journaliste.
Alors là, c'est la grande Sylvia Hamilton.
Oui, la journaliste.
Là, c'est la grande journaliste qui rencontre chez Lewis Galantière. C'est une journaliste qui travaille à l'Université de Columbia, qui ne parle pas le français. Et donc, Saint-Ex, pareil, c'est pas l'anglais. Il parle en allemand, puisqu'elle est d'origine allemande. Elle est née Handelsmann. Lui se rappelle son allemand scolaire.
Bien sûr.
Donc, on arrive à se comprendre. Et puis, il y a des lettres merveilleuses qu'elle a laissées. Et je vais vous lire une lettre qui est importante, car elle est très importante pour la suite de création littéraire. Que nous dit donc Sylvia Hamilton. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a raconté l'histoire du Petit Prince qu'il n'avait pas encore commencé d'écrire. Comme il faisait constamment de merveilleux croquis, je lui suggérais d'illustrer lui-même ce livre, alors qu'il voulait le faire dessiner
par Bernard
Lamotte,
son ami.
Était son ami qui avait dessiné, qui avait illustré Pilote de guerre.
Pilote de guerre, oui.
Mais elle, le voyant, puisqu'il venait chez elle, elle le voyait écrire et dessiner tout le temps sur la table ou sur la nappe. Donc, elle achetait du papier parce que la nappe y passait tous
Bien
les jours.
Sûr.
Donc, elle le voit dessiner un petit bonhomme, etc. Mmh. Et elle lui dit, il faudrait que tu l'illustres toi-même.
Mais c'est ça, voilà.
Donc, c'est elle qui l'a poussée à le faire.
Elle a bien fait, parce que sincèrement, quand on voit...
Eh oui.
Quand on voit les aquarelles, c'est magnifique.
Donc, c'est l'auteur de la prose et des dessins.
C'est ça.
Au printemps 43, il réussit enfin à rejoindre l'Afrique du Nord, dit-elle. Les conditions qu'il y trouva le rendirent malheureux, ce qui décrit particulièrement bien des deux lettres qu'il m'adressa. Le jour de son départ approchait. Je lui fis faire un bracelet d'identité en or. Ce n'est pas la fameuse gourmette. Hein.
Ah non, non,
non. Ce n'est pas la gourmette.
C'est sa femme qui lui avait offert.
C'est sa femme qui lui avait offert. Ouais.
Hein. La gourmette qu'on a retrouvée.
Voilà,
au large de Marseille.
J'ai vu X fois. Il y a marqué Antoine et Consuelo.
Et Consuelo.
Alors
on a même pensé à un moment que c'était un faux.
Voilà.
Mais non, c'était bien la vraie gourmette.
Ouais. Non, Sylvia lui fait faire un bracelet d'identité en or, s'il vous plaît. Et puis, elle lui donne le matin où
le moment du départ.
Il vient me faire ses adieux. Mais il ne la gardera pas, il la donnera à Consuelo. Il ne veut pas l'emmener.
Ouais.
Il
ne
veut pas emmener cette gourmette. Voilà. Il ne l'emmène pas avec lui. En partant, il me dit, je voudrais te donner quelque chose de splendide, mais c'est tout ce que j'ai. Il me mit dans les mains son vieil appareil Zeiss-Icône.
Ouais.
Et le manuscrit français du Petit Prince.
Voilà, c'est ça. Il l'avait enfin écrit.
Il avait enfin le manuscrit français, et qu'elle va garder, et qu'ensuite qu'elle vendra, vendra, d'autres disent déposa, à la Pierpont Morgan Library, c'est-à-dire la bibliothèque de New York. Voilà. Donc Sylvia est très importante, elle lui fait connaître du monde, ils sont amis, même plus qu'amis, mais elle a beaucoup d'importance, et surtout pour le Petit Prince.
C'est ça.
Le Petit Prince et le Renard.
Il va être édité aux États-Unis en premier.
Il va être édité aux États-Unis en premier. Ensuite, ça va paraître après la guerre chez nous.
Chez nous, oui.
Et puis, encore combien traduit en plus d'une centaine de langues.
C'est inouï, ce Petit
Prince. Même peut-être 150 en dialecte aussi. Et des milliers de livres, puisque Le Petit Prince était le livre le plus vendu après la Bible, disait-on. Harry Potter n'est pas loin, hein,
oui, oui.
Mais c'est Saint-Exupéry et Le Petit Prince, c'est vraiment...
C'est rigolo, parce que Consuelo, voilà. C'était dans le livre, c'était la rose, c'est ça?
C'est ça. Et Consuelo, c'est la rose. Et
Sylvia,
c'est le renard.
D'accord.
Et sa première lettre est intéressante pour voir comment elle voit Saint-Ex. Avec ses yeux américains, si on peut dire. « J'avoue que j'étais impatiente de rencontrer l'auteur d'un livre si beau et si poétique. Naturellement, je ne l'avais jamais imaginé physiquement, il faisait 1m93, mais je n'ai jamais été déçue. Il ressemblait à un bon gros ours merveilleux, il était timide et bourru. Le cercle des cafés littéraires et des cocktails parties, grâce auxquels nous fîmes connaissance, était son univers, ce que vous disiez, très justement. » Il ne brûlait pas seulement de revoir son pays, il brûlait de mettre à son service les compétences supérieures qu'il savait être les siennes. Bien sûr, il y avait la France libre, mais il n'était pas gaulliste, il n'était pas pragmatiste et n'acceptait de personne de subordonner ses idéaux.
C'est ça, voilà.
Ah. Dans la colonie des Français émigrés de New York, il resta jusqu'au bout un personnage isolé et pas très bien apprécié.
Il était un peu énigmatique,
Énigmatique. Mm-hmm. Il a dit qu'il n'était ni gaulliste, ni vichiste, ni girodiste, ni communiste.
Pourtant, il s'est bien entendu avec Giraud.
Avec Giraud, oui, parce qu'il pensait que...
Oui, c'est
c'était
ça.
Plutôt le militaire qui parlait.
Ah oui, voilà.
C'était plutôt le militaire. Mais rien n'est simple dans ce vaste monde, comme vous savez. Et donc, le petit prince, pilote de guerre, on en a parlé encore, pilote de guerre, va être encore un livre qui sera donc écrit aux États-Unis. C'est ce fameux vol dont nous avons parlé tout à l'heure.
Oui.
Et quant au Petit Prince, le Petit Prince va être vraiment écrit à Long Island, dans une belle maison. Consuelo lui avait trouvé une villa de 22 pièces, alors que Saint-Ex lui voulait une cabane à lapins,
c'est
comme
ça.
Il disait.
Ouais.
Alors, c'est la fameuse Bevin House, qu'on peut toujours visiter, qui est occupée, pas très loin de New York. Et donc, il travaillait.
C'est là qu'il écrivait,
Petit
Prince.
La nuit.
Ah oui,
c'est tout
le temps la nuit.
Écrivait la nuit, il y avait des voisins, puis ensuite il changeait d'immeuble, il changeait de quartier, il retrouvait l'écrivain suisse Jean de Rougemont et l'écrivain français André Mauroy, et puis beaucoup d'autres. Et il y avait une colonie française
qui était là-bas,
exilée, et qui attendait de pouvoir un jour revenir en France, comme on pouvait essayer de faire. Donc, ce voyage, ce séjour, il y a le côté littéraire et le côté humain.
C'est ça.
Et il reste aux États-Unis. Et c'est un octambule. On a dit qu'il aimait travailler la nuit. Donc, la nuit, il travaillait dans des restaurants, comme on l'a dit. Des restaurants.
Oui, parce que New York ne dort jamais.
Ne dort jamais.
Voilà.
Donc, il pouvait partir à 4 heures du matin.
Voilà.
C'est vrai, on peut même aller
chez... un café, on peut faire n'importe quoi, on vit la nuit.
Chez le dentiste, si vous voulez, à 5 heures du matin.
C'est une ville qui ne dort jamais.
Donc lui, comme il dormait peu, il est travaillé. C'est un faux dilettante finalement, parce que c'est un travailleur.
Mais la journée, il paraissait dilettante, parce qu'il était, il aimait bien la partie grand monde, ça lui plaisait bien.
Oui.
En revanche, la nuit, il s'attelait à son travail.
Il s'attelait à son travail, et un écrivain a dit que pour lui, le plus important, c'était le travail, comme vous venez de dire, le travail, l'écriture.
C'est l'écriture, oui.
L'écriture. Et ces brouillons montrent qu'il souffre. Hein. Il
rature, parce qu'il y a beaucoup de ratures. C'est ça qui est beau à voir.
Ouais,
quand on voit les manuscrits,
tout à fait.
C'est magnifique.
Avec il biffe des phrases entières.
Oui,
il
puis il y a des mots qu'il recherche. On sent qu'il est très appliqué.
Il va à la bibliothèque pour trouver le mot juste.
C'est ça, voilà.
Il prend les dictionnaires, il les emprunte, il ne les rend pas. Enfin... ensuite, qu'est-ce qu'il aime ? Eh bien, piloter un avion.
Ah, ça, oui.
Piloter les avions. Et puis aussi la camaraderie. La camaraderie.
C'est ça.
Masculine, on va dire, les copains, l'amitié.
Mais il a trouvé ça dans l'armée quand même.
Dans l'armée. Les femmes apparaissent quand même en seconde position. Bon, il y a la mère toujours, mais oui. Le commerce avec les femmes, on va dire, n'est pas vraiment très, est important, mais il ne le met pas au premier rang.
C'est ça.
Et puis, ce qui est important pour lui, c'est sa place à lui dans le monde.
Oui, il y tient.
Sa place à lui dans le monde. Aux États-Unis, c'est un peu la France, lui.
Et il a l'impression.
Il a l'impression.
Qu'il représente la
France. Et à New York,
il
est un peu chez lui.
Il représente la
et
France.
Et quand on regarde le plan de Manhattan, il y a au moins... Il y a moins 5 ou 6 stations, on va dire.
Oui.
Ce n'est pas un chemin de croix, mais il y a une dizaine de stations. Et il y a quelques années, l'Université de Lyon 3, à Lyon, avait proposé une exposition sur Saint-Exupéry à New York.
À New York, oui.
Et un auteur, dans une immense salle, avait reconstitué sur le parquet, sur le plancher, le plan de Manhattan.
C'est ça.
Et on marchait dessus. Et bien sûr, il y avait tous les numéros, il y avait une dizaine de numéros.
Toutes les poses.
Il y avait toutes les adresses.
C'est ça.
Où
il avait vécu.
Et il y en avait au moins une bonne douzaine. Et c'était très intéressant.
Ah, quand même, il ne restait pas tout le temps au même endroit.
Ah non, il bougeait beaucoup.
Tout en restant à New York, il déménageait sans arrêt.
Il déménageait. Et puis aussi, il y avait les adresses aussi des chers amis aussi.
Oui.
Des chers amis. Et oui, donc, et puis il y avait les bibliothèques, il y avait le café, le restaurant favori, où il pouvait travailler la nuit. Et quand il était le week-end, il partait de New York à la grande fureur de Consuelo, parce que, étant un soldat, il allait à Washington, il allait au Pentagone.
C'est ça.
Inauguré le 15 janvier 1943. Le fameux Pentagone,
oui.
Le War Department, il allait travailler avec les Américains et il était précieux. Pourquoi ? Eh bien, pour
le futur débarquement.
Pour les futurs débarquements. Donc, il a beaucoup aidé pour le débarquement en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, mais surtout pour le débarquement en Provence.
Parce qu'il connaissait bien la région.
Il connaissait la région. Il était allé petit, le château de la Mole.
Ses grands-parents.
À côté,
oui.
Voilà. Il connaissait Cavalère, il connaissait
Saint-Raphaël. Oui.
Donc, quand il y avait des conférences au Pentagone, il parlait devant un amphi, il y avait peut-être 400 ou 500 officiers américains. Il parlait tranquillement. C'était marqué au-dessus « No smoking », mais comme il ne connaissait pas
l'anglais... Il faisait semblant de ne pas comprendre, il n'a pas compris, il fumait.
Il continuait, et donc c'est lui qui a indiqué les plages où il fallait débarquer.
Voilà.
Cavalère, Saint-Raphaël...
Ça, il connaissait bien.
Il connaissait tout ça, parce que vu d'Amérique, les Américains ne connaissaient pas trop la région.
Mais non.
Profondeur de l'eau, pour les péniches, enfin tout ce qui était stratégique.
Et lui, comme il faisait de l'avion, il connaissait bien la région.
Voilà. Donc, il allait travailler avec ses officiers et en voiture aux vitres teintées. Et il ne disait rien à Consuelo, qui s'imaginait, bien sûr, qu'il allait voir autre chose
que les belles dames,
et voir autre chose que le ministère de la Défense, comme on dirait aujourd'hui.
Ouais.
Donc, c'était un soldat. Et il connaissait beaucoup de monde, que son ami Nelly de Voguet l'avait fait connaître, parce que certains de ses militaires qui avaient pris du grade, eh bien, pendant la guerre de 14, ils étaient 1917-1918, ils étaient dans l'Est.
C'est ça, oui.
Et comme Nelly de Voguet était de la région un peu de Lorraine. Aussi, et puis d'autres connaissances, ces gens se retrouvaient à New York.
Mmh.
Et donc, ça avait aidé pour qu'il ait des relations précieuses au point de vue littéraire, mais surtout aussi au point de vue militaire.
C'est ça.
Il en a eu bien besoin quand il a voulu repartir.
C'est ça.
Parce qu'étant âgé de plus de 40 ans...
Il n'avait plus le droit de piloter aux États-Unis. En revanche, en France, on lui permettait.
On lui a permis. Mais les Américains l'ont autorisé.
Oui,
mais
c'est
enfin,
ça, voilà.
On connaît la suite tragique.
Oui.
Mais il a fait des pieds et des mains pour pouvoir revoler.
C'est ça.
Sinon, il était privé de vol.
Il n'aurait pas pu vivre sans voler.
Non, il fallait qu'il vole. Et le dernier vol, c'est encore un mystère. On dit qu'il est venu au-dessus de Grenoble. Il a poussé un peu au-dessus de Lyon et au-dessus de Saint-Maurice de Raymond. La suite, on pense, on sait ou on ne sait pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire de beau ?
Vous avez
trouvé un article curieux, intéressant.
Oui, parce qu'il avait fait une lettre pour remercier en fait les Américains.
Oui.
Et il avait aussi rencontré, quand il était dans le bateau, il avait rencontré un pilote, un jeune pilote américain. Et alors, avec ses amis, il l'invite à dîner.
Là, il a quitté l'Amérique.
Oui, ils sont sur les bateaux.
C'est ça, ils rentrent en Afrique du Nord.
Voilà. Et quand ils sont sur les bateaux, ils invitent un jeune pilote américain.
Voilà.
Et il l'invite à dîner. Et puis alors, ils s'aperçoivent quand même qu'il est tourmenté.
Oui.
Alors, il lui pose la question. Mais comme il était timide, ils n'arrivaient pas à exploser son secret.
Il y a le barrage de la langue aussi.
C'est ça. Mais bon, il arrivait quand même. Alors, en fait, tout rougissant, alors je dis que...
C'est très bien.
Voilà. En fait, tout rougissant, il s'expliqua. J'ai effectué ce... Alors ça, c'est le petit pilote qui parle.
Le pilote américain.
J'ai effectué ce matin ma 25e mission de guerre. J'ai été aux prises avec le Messerschmitt 109. Je recommencerai demain. Il se peut que je sois abattu. Vous savez pourquoi vous faites la guerre. Il faut sauver votre pays. Mais moi, je n'ai rien à voir avec vos problèmes en Europe. Nos intérêts à nous se situent dans le Pacifique. Si donc j'accepte le risque d'être enterré ici, c'est dans mon idée pour vous rendre votre pays. Tout homme a droit d'habiter libre son pays. Et je suis solidaire de tous les hommes. Mais quand mes compatriotes et moi, nous vous aurons aidé à délivrer votre maison, nous aiderez-vous à votre tour dans le Pacifique ? Donc ça, c'est la fin de la citation.
Oui.
Et après, Saint-Ex reprend. Nous aurions embrassé ce jeune camarade. Il avait besoin, à l'heure du danger, d'entendre confirmer par tous sa foi profonde en la solidarité des hommes.
La solidarité des hommes. On trouve bien Saint-Exupéry.
C'est ça, voilà.
Qui est solidaire et aussi solitaire.
Oui, voilà.
Voilà. Mm-hmm. Merci pour ce témoignage. Donc là, il vient de quitter l'Amérique le 2 avril 43.
43, oui.
43. Le 6 avril 43 apparaît le Petit Prince.
C'est ça, oui.
Mais lui est déjà en mer.
Oui, c'est ça.
Il est déjà parti vers une autre vie. Et derrière lui, il laisse des chefs-d'œuvre, donc les trois chefs-d'œuvre américains, si on peut dire.
Qu'on a cité tout à l'heure, oui.
On a donc le lettre, on reprend sans répéter la lettre à un otage.
C'est ça, oui.
Qui est une cinquantaine de pages.
Un petit fascicule.
Hein. Ça se lit très facilement. Oui. On peut le recommander. On peut recommander aussi Terre des Hommes, c'est très bien écrit.
C'est un bel ouvrage.
Un bel ouvrage, tous ces articles. Nous avons aussi Pilote de guerre.
Oui.
Alors là, c'est la guerre, c'est la philosophie. C'est la citation que nous redonnons. Pilote de guerre et les discours de Churchill sont la meilleure réponse jusqu'ici au livre Mein Kampf de Hitler. C'est dire si les Américains, c'est Edward Mix qui représentait toute la presse américaine, qui se faisait le porte-parole en 43 puis 44 de ce livre. Le grand écrivain français Pierre Macorlan, vous savez, qui avait la pipe et puis un béret écossais.
Improbable, oui.
Voilà. Il avait écrit le 8 janvier 43, en parlant de pilote de guerre, ce livre est un grand et beau livre. Il est peut-être le vrai livre de la guerre de 39. Je l'ai lu deux fois et mon souhait est de le faire lire. Il n'est guère comparable à d'autres livres de guerre. Pour la plupart des hommes, ce livre sera un enseignement et pour d'autres, il sera un réconfort. C'est et
bien.
Dans ce roman, il parle, ce récit, ce roman, il fait appel à l'enfance et il appelle au secours la gouvernante tyrolienne qu'il avait à Saint-Maurice quand il était enfant. Donc on assiste à un bombardement terrible, un combat aérien, une situation d'enfer au-dessus d'Arras, et il appelle, parce qu'il a besoin de se souvenir de l'enfance,
c'est ça, en fait.
Pour se protéger du côté
c'est
tragique.
C'est ce qui le protège.
C'est ce qui le protège.
De ses souvenirs d'enfance.
Voilà, il se fait de ce souvenir d'enfance un bouclier,
c'est ça.
On va dire. Et enfin, Terre des Hommes a été aussi une œuvre intime, et en même temps, c'est une œuvre pétrie, on va dire, d'humanité, où l'héroïsme et la grandeur d'âme, l'idéalisme aussi,
l'idéalisme,
et l'innocence transparaissaient plutôt à chaque page. et Terre des Hommes, donc Académie française, grâce le prix de l'Académie française, grâce à son ami et écrivain Henri Bordeaux. Et tous les deux étaient allés à Berlin le 15 mars 1939 et ils avaient vu ce qui se préparait.
Mais ils prévoyaient, oui.
Ils avaient vu ce qui se préparait. Ils avaient voulu aller voir de leurs propres yeux. Voilà. Eh bien, nous allons... merci Gisèle pour le gros travail que vous avez réalisé pour cette époque qui est peu connue, qu'on espère maintenant
plus
claire.
Mais on ne connaissait pas l'américain.
L'américain, on ne connaissait pas. Et donc, c'est là-bas que des petits chefs-d'œuvre entre les gratte-ciel sont nés. Merci encore à Thomas pour à la technique. Et nous partons, nous vous laissons donc avec George Gershwin, bien sûr. Gershwin, c'est New York.
Bien sûr.
Avec Sweet and Low Down. Au revoir, merci.